Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu un trou de mémoire? Alors, Arnaud dit qu'il s'en souvient plus. Donc. Il paraît que tout âge confondu, pour vous rassurer, entre 15 et 23% des Français, tout âge confondu, ont des oublis fréquents. Le problème, c'est quand on ne se souvient plus qu'on a eu des oublis. Certains trous de mémoire ont fait le buzz dans les médias. Lors d'une émission télévisée, plutôt diffusée sur Internet, pardon, pendant la dernière campagne présidentielle, François Bayrou a rejeté une proposition concernant des bourses étudiantes, alors que cette proposition était pourtant dans son programme. Il semblait l'avoir oublié, le pauvre. Un prêtre catholique hollandais a eu un trou de mémoire au cours de la messe qu'il célébrait, au moment de l'Eucharistie, donc la scène pour nous. Il a oublié de dire « Ceci est mon corps livré pour vous ». Cela a été suffisamment grave pour que le diocèse le suspende pendant un an de ses fonctions de prêtre. Enfin, Carla Bruni a aussi eu un trou de mémoire au milieu d'une chanson. Alors, il y en a d'autres qui l'ont eu. Mais elle participait à un gala au profit de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Les trous de mémoire sont finalement assez banals et touchent un peu tout le monde, il faut bien l'avouer, moi le premier. Ils sont parfois amusants, d'autres fois plus ennuyeux, il faut aussi l'avouer. Mais quand Dieu est en cause, ils peuvent être désastreux. Un livre de l'Ancien Testament nous le rappelle en particulier. On y trouve souvent, régulièrement, les expressions « n'oublie pas » ou « souviens-toi » qui fonctionnent un peu comme le leitmotiv ou le refrain de ce livre. Ce livre, c'est le livre du Deutéronome, le cinquième livre écrit par Moïse, le cinquième livre du Pentateuch, qui est une sorte de récapitulatif ou d'explication aussi des quatre premiers livres. Moïse a écrit ce livre-là alors que le peuple, Israël, est aux portes du pays promis, après 40 ans de pérégrination dans le désert, prêt à démarrer la conquête du pays promis sous les ordres de Josué. Mais cette conquête qui est l'aboutissement du projet de Dieu pour son peuple, après la délivrance d'Égypte, est aussi, quelque part, constitue aussi un réel danger pour le peuple. Cette conquête constitue un danger pour le peuple. Quel danger ? Le danger d'oublier Dieu, d'oublier l'Éternel, devant le bien-être dont Israël va jouir au sein de ce pays. Le danger d'oublier l'Éternel, comme peut-être nous aussi nous pouvons être prompts à oublier Dieu, ses délivrances, ses promesses, ses commandements. Et dans Deutéronome 8, que nous allons lire maintenant, Moïse cherche à avertir le peuple de ne pas oublier, de ne jamais oublier son Dieu. Et donc on va lire le Deutéronome 8, du verset 1 au verset 20. Vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux, et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau et de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers, les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert, peuplé de serpents venimeux, de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les nations que l'Éternel votre Dieu va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. Dans ce texte, Moïse nous encourage à faire attention à trois types d'oubli vis-à-vis de Dieu qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Le premier type d'oubli, on le trouve au verset 2. Ne pas oublier le chemin parcouru avec Dieu. Verset 2, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir. Ne pas oublier non plus les commandements donnés par Dieu. Au verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements. Et le troisième oubli, c'est ne pas oublier les succès offerts par Dieu. Au verset 14, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Le premier type d'oubli, donc, contre lequel Moïse nous avertit, c'est d'oublier le chemin parcouru avec Dieu. Le peuple d'Israël est donc, comme je disais au début, aux portes du pays promis. Pendant 40 ans, ils ont cheminé dans le désert. Un cheminement difficile, compliqué. Le texte nous dit que le peuple y a connu la pauvreté, la faim, la soif et de nombreux dangers. Le chemin du désert pour le peuple, comme le chemin de nos propres épreuves, a été utilisé par Dieu pour un double objectif. Et le texte nous révèle ce double objectif entre du verset 2 au verset 5. Le premier objectif, c'est de nous donner l'occasion de manifester nos dispositions intérieures à l'égard de Dieu, pour connaître ce qui est dans notre cœur. Autrement dit, nous connaître nous-mêmes. Ce que dit verset 2, il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Tes véritables dispositions intérieures. Et le deuxième objectif de Dieu, à travers les épreuves, à travers ce chemin dans le désert pour le peuple, c'est de donner à Dieu l'occasion de révéler sa fidélité. Une fidélité qui suffit à l'homme quand toute autre ressource lui manque. Autrement dit, connaître Dieu. Le double objectif de Dieu, à travers le chemin parcouru par le peuple, à travers le chemin de nos propres épreuves, c'est de mieux nous connaître nous-mêmes et de mieux connaître Dieu, l'Éternel. Se connaître soi-même d'abord. L'épreuve, je crois, est un révélateur puissant, peut-être le révélateur le plus puissant de ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs, de quoi nous sommes faits. Elle sert de révélateur d'abord à la solidité de notre foi. Il faut avouer que c'est relativement simple d'être chrétien quand tout va bien, quand on est béni de toutes parts. C'est plutôt simple. Mais quelle est la solidité de ma foi quand les difficultés apparaissent dans ma vie, quand les épreuves surviennent? Jésus l'a bien illustré dans la parabole du semeur, avec ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Il dit, quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ne la laissent pas prendre racine en eux. Car ils sont inconstants, que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Qui abandonnent tout. En 12 ans dans notre église, nous avons eu le privilège et la joie de célébrer 68 baptêmes, d'après les statistiques personnelles. Sur ces 68 baptêmes, quand je regarde ces 68 jeunes gens, ou plus âgés, je peux dire déjà que 6 d'entre eux ne témoignent plus aucun témoignage chrétien digne de ce nom. Et je ne compte pas ceux dont je n'ai pas de nouvelles particulières. Ce sont environ 10% de ceux qui sont passés par les eaux du baptême parmi nous. Il semble que leur foi n'était pas assez solide. C'est la triste réalité. Les épreuves sont là aussi pour tester la solidité de notre foi. Dieu nous les envoie aussi pour tester la solidité notre foi. Les épreuves aussi servent de révélateur à notre capacité à dépendre de Dieu. Tu te croyais assez fort pour réussir seul, et voilà que l'épreuve tombe. Et tu es obligé de te tourner vers l'Éternel pour réclamer de nouveau de dépendre de lui, ta dépendance, ton allégeance envers lui. Et enfin, les épreuves, je crois, servent aussi de révélateur au bienfait de Dieu. Alors ça peut paraître étrange à première vue, mais nos épreuves nous permettent aussi de mieux réaliser les bienfaits de Dieu. Le désir de Dieu est de nous rendre heureux. Il ne faut pas oublier, son désir c'est de nous rendre heureux. Parfois on ne sait pas ce qui peut nous rendre heureux, mais son désir c'est de nous rendre heureux. En répondant à nos besoins les plus sincères. Mais souvent, souvent, Dieu laisse d'abord le besoin se faire sentir dans nos vies, pour que ses bienfaits ne soient pas méprisés tout de suite, immédiatement. C'est le verset 16 qui nous dit ça. Il nous dit, Dieu a fait tout cela pour te faire, afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Dieu doit faire susciter le besoin en nous pour que nous puissions comprendre quels sont nos réels besoins envers lui, pour que nous ne négligions pas, pour que nous ne méprisions pas ses bienfaits dans nos vies. Avant que nous apprenions à nous connaître nous-mêmes, à travers le chemin semé souvent d'obstacles peut-être, d'épreuves que Dieu permet, nous avons, je crois, tous beaucoup d'illusions sur nos forces, beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Et chemin faisant, un chemin que nous n'aurions peut-être pas choisi, parce que je ne pense pas que le peuple d'Israël aurait choisi de vivre 40 ans dans le désert. D'ailleurs, ce n'était pas prévu au départ. Mais chemin faisant, Dieu nous transforme. Il y a eu beaucoup de prières ce matin qui réclamaient d'être transformés à l'image de Christ. L'épreuve, les épreuves que nous pouvons vivre, sont un outil utilisé par Dieu pour nous transformer à l'image de son Fils. Pourquoi ? Parce qu'elles nous rendent souvent plus humbles sur nous-mêmes. Elles cassent nos illusions sur nous-mêmes, notre prétendue force, ou notre prétendue solidité parfois, ou notre prétendue esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Elle nous montre ces épreuves, ce que nous avons vraiment dans le cœur, pour que nous puissions nous tourner complètement vers notre Seigneur. Et à travers donc ce chemin parfois difficile de nos vies, Dieu veut que nous apprenions à mieux nous connaître. Pourquoi ? Afin de disparaître toutes nos illusions et découvrir ou redécouvrir peut-être la solidité de notre foi, le fait que nous avons un Dieu vivant. L'humilité aussi, redécouvrir l'humilité, de la dépendance envers notre Dieu. Et il ne veut surtout pas qu'on oublie ces choses, ni qu'on oublie les bienfaits qu'il nous accorde. Une dernière chose à ce propos. Dieu, lui, connaissait très bien les dispositions du cœur de son peuple. Il n'a rien découvert. Mais il voulait que le peuple connaisse ses propres dispositions du cœur. Dieu connaît les dispositions de ton cœur. Mais il veut que tu te rendes compte de tes propres dispositions de cœur dans l'épreuve, pour que nous puissions mieux apprécier sa miséricorde envers nous, sa grâce envers nous. Et ça nous enchaîne sur le deuxième point, deuxième objectif de Dieu à travers les épreuves que ce texte nous révèle, le fait de mieux connaître Dieu. Même si le cheminement dans le désert, où tout lui manquait, a été difficile pour le peuple, Israël ne doit pas oublier qu'il a survécu dans ce désert grâce à l'assistance continuelle de son Dieu. Dieu a témoigné de sa fidélité auprès de son peuple. Et Dieu a préservé le peuple de trois manières différentes. Au verset 3, il est dit que Dieu a nourri son peuple avec la manne. Dieu a donné la manne à son peuple tous les jours durant son cheminement dans le désert. C'était sur l'ordre de Dieu que cette manne était disponible. Et c'est donc par grâce que le peuple a pu survivre dans ce temps. La manne les nourrissait, mais cette manne était à disposition parce que Dieu la donnait, parce que Dieu la permettait. Et quelque part, c'est un message pour nous de se dire que nous vivons avec des biens, avec des choses, parce que Dieu nous les donne à disposition. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que le peuple a appris à travers cette manne à dépendre de Dieu pour sa subsistance. Et nous avons parfois besoin de réapprendre à dépendre de Dieu pour notre subsistance, ce qui n'est pas forcément aisé dans notre monde où on vit. On peut croire facilement que c'est normal, entre guillemets. Au verset 4, il est dit aussi que le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi. Dieu a habillé son peuple, en quelque sorte. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la nourriture qu'Israël était l'objet des soins miraculeux du Seigneur. Cela a aussi été le cas pour les vêtements. Imaginez un vêtement inusable, qui ne s'abîmerait jamais, année après année, le même vêtement, toujours aussi neuf qu'au premier jour, les couleurs toujours aussi vives. Le rêve, ou peut-être le cauchemar, selon le sexe de la personne. Non, peut-être les hommes aussi, hein. Peut-être le cauchemar. Mais en même temps, dans le désert, la mode ne devait pas changer tous les jours non plus. Dieu a habillé son peuple. Dieu aussi a soigné son peuple. Il est dit que malgré des kilomètres et des kilomètres de marche, pas une seule ampoule au pied de son peuple. Là encore, le rêve de tout randonneur. Pas de problème. Pas une seule ampoule. Pas une blessure au niveau des pieds. Donc au-delà de la fidélité de Dieu, que ces trois points nous révèlent, le fait que Dieu a nourri, habillé et soigné son peuple, ça nous révèle la fidélité de Dieu. Au-delà de cette fidélité, Dieu voulait aussi se révéler à son peuple comme un père à travers ce cheminement. C'est ce qui est dit au verset 5. « Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son fils. » Et c'était un peu le thème de la prédicence de ce matin d'Arnaud. La famille, nous avons un père spirituel par notre Seigneur Dieu. À travers notre Seigneur Dieu. Et de ce que j'ai pu voir, il semble que c'est la première fois dans la parole de Dieu que Dieu se révèle en tant que Père à son peuple. Il n'est pas un Dieu lointain qui laisse aller, mais il est ce Dieu proche, Père, ce Père proche qui éduque dans nos vies. Dans l'épreuve, des pensées trompeuses peuvent nous envahir. Dieu est loin. Dieu est un Père fouettard. Non, c'est faux. Dieu a mis le peuple d'Israël dans une position d'énuement et d'impuissance comme un petit enfant pour qu'il apprenne la sollicitude de Dieu, pour qu'il apprenne les secours et les soins éducatifs de son Père céleste. Dieu est un bon Père qui veut que l'épreuve nous fasse grandir. Il nous corrige pour nous faire grandir. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas que je passe par l'épreuve, mais c'est justement parce qu'il m'aime. Et c'est ce qu'affirme Hébreux 12, versets 5 à 6. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige qui ? Celui qu'il aime, bien sûr. Il châtie tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils ou filles. » Dieu ne nous donne pas la garantie d'un cheminement facile sur cette terre. Jamais. Mais Dieu nous donne une autre garantie. Il nous dit, comme à beaucoup de patriarches, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » N'oublions pas le chemin parcouru avec Dieu. Peut-être avec les épreuves qui nous ont assaillis dans notre propre passé l'un et l'autre. N'oublions pas ce chemin. Mais gardons bien en mémoire les compassions de Dieu au sein même de nos épreuves. Sa présence, son assistance, son éducation. Le second type d'oubli contre lequel Moïse nous avertit, c'est d'oublier les commandements donnés par Dieu. Dans ce passage, Moïse nous rappelle à 5 reprises que Dieu réclame notre obéissance et donc nous encourage à ne pas oublier d'obéir à Dieu. Pourquoi cette obéissance est-elle si importante ? Parce que Dieu, d'abord, comme on l'a vu, se révèle comme un père. Et en tant qu'enfant, nous avons à nous soumettre à notre père. Et c'est ce qui est valable pour tous les enfants. Éphésiens 6, verset 1 le rappelle. « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Et nous sommes devant l'Éternel tous des enfants qui avons à nous soumettre et à obéir à notre Père céleste. » Deuxième chose, pourquoi c'est si important, c'est parce que les bénédictions divines sont étroitement liées à l'observation de la loi. Au verset 1, l'obéissance à Dieu est la condition à une quadruple bénédiction. Il est dit, vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux, que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Une quadruple bénédiction pour celui qui obéit à Dieu au milieu du peuple. Si j'oublie les commandements de Dieu et n'y obéis pas, du coup, forcément, je ne peux pas ensuite me plaindre à lui parce que ça ne va pas. Si je me marie avec un non-chrétien, si je triche avec mes impôts, si je rentre en dépendance avec autre chose que Dieu, je ne peux pas me tourner vers Dieu, me plaindre et me dire « c'est ta faute ». Non. Tu as oublié mes commandements. Tu n'y as pas obéi. C'est ma faute. Mais je peux retourner vers Dieu, bien sûr, pour demander pardon, pour me réconcilier avec lui. Mais je ne peux pas me tourner vers Dieu et lui dire « c'est ta faute ». C'est hors de la garantie divine de continuer dans la même voie. Enfin, c'est aussi la condition à une vie heureuse d'obéir à ses commandements. Pour vivre dans le pays promis, Dieu a donné ses commandements à son peuple dans le désert. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous embêter, mais pour nous permettre de vivre heureux dans un cadre précis, voulu par Dieu, pour nous permettre de vivre ensemble en respectant chacun. Un proverbe russe dit que la répétition est la mère de l'apprentissage. La répétition est la mère de l'apprentissage. Nous devons sans cesse répéter et répéter tout le conseil de Dieu à nos oreilles et à nos cœurs pour y rester fidèles. L'apôtre Pierre, qui n'est pas loin de sa mort quand il écrit sa seconde épître, l'avait bien compris. Voilà ce qu'il écrit en 2 Pierre 1, versets 12 à 15. « Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil, par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous rappeliez toujours ces choses. » Une de nos principales missions en tant qu'anciens dans l'Église est de faire attention à ce que le conseil de Dieu, l'ensemble des Écritures, soit vu, revu et revu année après année dans l'Église. Parce que c'est la seule, l'unique solution pour que la parole de Dieu nous marque au fer rouge dans nos vies. L'une de mes principales missions en tant que père, c'est de répéter à mes enfants le conseil de Dieu pour que ça nous marque au fer rouge. L'une des principales missions que j'ai dans ma propre vie, c'est de me répéter le conseil de Dieu pour que je ne croie pas des mensonges, mais que je croie la vérité, que la vérité habite dans ma vie. Et j'ai besoin, nous avons besoin de répétition dans nos vies, parce que nous avons l'oreille dure, et le cœur dur souvent. Eugène Peterson a décrit le processus consistant à suivre Christ comme une longue obéissance dans la même direction. Une longue obéissance dans la même direction. Ce qui veut dire que quand on a commencé à obéir à Dieu, il nous faut renouveler sans cesse cette obéissance envers Dieu. Nous devons sans cesse nous rappeler que nous avons à obéir aux commandements de Dieu et ne jamais l'oublier. Et troisième type d'oubli contre lequel Moïse veut nous avertir, c'est d'oublier les succès offerts par l'Éternel. Le peuple d'Israël était tout proche de démarrer sa conquête victorieuse du pays promis, avec un succès et une réussite sans pareil. Et la description que nous fait le chapitre 8 de l'abondance du pays promis dénote avec ce que Israël a vécu pendant le désert. On voit au verset 7, c'est un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes, au lieu de la soif dans le désert. C'est un pays où tu ne mangeras pas parcimonieusement et où tu mangeras satiété, au lieu de la faim. Un pays à la nourriture abondante et variée. Au verset 8, on voit 8 produits alimentaires différents qui sont cités, au lieu de la manne tous les jours. C'est un pays où tu ne manqueras de rien et dont tu jouiras des biens, verset 10, au lieu de la pauvreté. C'est enfin un pays où tu pourras te sentir en sécurité et te développer en construisant de belles maisons, en multipliant ton gros et ton petit bétail, en accumulant de l'argent et de l'or même, au lieu de l'insécurité du désert. En bref, ce qui attend le peuple, c'est une bénédiction exceptionnelle, extraordinaire. Et le but de cette bénédiction, c'est qu'en retour, le peuple adore, loue, glorifie son Seigneur. Verset 10, il est dit « Ainsi tu jouiras de ses biens, Tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Mais le risque existe pour le peuple d'oublier d'être reconnaissant envers son Dieu et de croire que c'est par ses propres forces, sa puissance, qu'il a acquis toutes ses richesses, au verset 17. Est-ce que nos cœurs ne sont pas parfois, voire souvent, oublieux quand il s'agit d'être reconnaissant envers notre Seigneur, envers les bénédictions de Dieu? Pour ne pas oublier les succès offerts par Dieu, il nous faut d'abord ne jamais laisser l'abondance des dons nous faire oublier leurs donateurs. Ce ne sont pas les bénédictions reçues, santé, argent, famille ou je ne sais quoi, qui doivent être louées. C'est le donateur de ces bénédictions, l'Éternel. C'est aussi ne jamais croire qu'on est capable d'être indépendant de Dieu. On revient un peu à la même idée. Dans le désert, le peuple n'avait pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Il n'avait pas d'autre choix. Mais dans ce pays promis, quelque part, ils avaient la tentation de se croire indépendants de Dieu, de penser qu'ils pouvaient s'en sortir tout seuls. Le peuple risquait progressivement d'oublier cette grande leçon apprise au désert et de sombrer dans l'autosatisfaction après la conquête. Et dans notre société moderne et consommatrice, nous sommes, il faut bien avouer, si souvent tentés de croire que nous sommes capables d'être indépendants de Dieu. Je sais que dans ma propre vie, c'est un de mes combats quotidiens, croire que je suis capable d'être indépendant de Dieu. Je me souviens au début de notre mariage, peut-être un an et demi ou deux ans après notre mariage, nous avions tous les deux un boulot avec Manu, tout se passait très bien. La vie facile, entre guillemets. Et d'un coup d'un seul, je perds mon boulot, Manu perd son boulot, et on se retrouve sans boulot, avec un enfant qui arrivait, Tom, et un prêt pour un appart. Et Dieu, je crois, a voulu nous donner cette leçon de dépendance par rapport à lui, dépendre de lui. Et enfin, un troisième aspect, ne jamais devenir orgueilleux à cause de nos succès. Nous devons sans cesse nous souvenir que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité, verset 18. Au lieu de regarder à nos prouesses, à nos réussites, nous devons plutôt apprendre à regarder à ce que Dieu a fait dans nos vies. Il nous faut regarder à l'œuvre de Dieu à travers nous plutôt qu'à notre œuvre. Il nous faut regarder au divin potier plutôt qu'au vase humain que je suis, que nous sommes, comme l'évoque Jérémie en Jérémie 18. Les succès peuvent eux aussi nous conduire à l'oubli de Dieu, en oubliant le donateur, en se croyant indépendant de lui ou en devenant orgueilleux. N'oublions jamais que tous nos succès trouvent leur origine au même endroit, en Dieu, et en Dieu seul. Que faire de ce message? Nous sommes à la veille de la rentrée, on l'a suffisamment évoqué déjà. Une nouvelle année démarre, en quelque sorte, pour chacun individuellement, et aussi dans l'Église, après ce temps de vacances. Gardons-nous d'oublier le chemin parcouru avec Dieu, les commandements donnés par Dieu, les succès offerts par Dieu. Pour toi qui as peut-être oublié Dieu, c'est un avertissement solennel. La fin de notre texte constitue un avertissement solennel. Il est dit « Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui, vous périrez totalement. » C'est un avertissement solennel. La conséquence de notre oubli, c'est que nous allons périr totalement. La conséquence de notre oubli, c'est que Dieu nous oubliera aussi quand viendra le moment. Jésus l'a bien illustré à travers la parabole des dix vierges qui doivent aller à la rencontre du marié qui représente Christ en pleine nuit. 5 d'entre elles ont oublié de prendre suffisamment d'huile pour leur bougie, pour leur lampe, et n'étaient pas prêtes au moment du passage du marié. C'est un message dur. On a trop souvent l'impression que le message chrétien est un message fleur bleue. Ce n'est pas vrai. Le message de Dieu est un message dur. Si tu oublies Dieu, il t'oubliera et tu périras. Et je ne peux que t'encourager, si tu as oublié Dieu, à revenir vers lui pour te remémorer de Dieu, pour te remémorer à son souvenir. Pour toi qui n'as pas oublié Dieu, je crois que c'est un encouragement quelque part à garder nos yeux d'enfant envers notre Père Céleste. Quand l'un ou l'autre n'est pas là à la maison, chez nous, Léane, notre petite dernière qui a 2 ans, pose souvent la question, il est où papa? Il est où maman? Il est où Tom? Il est où? Toujours à poser cette question, et il faut répéter, il faut redire. Et quelque part, ça me montre qu'elle nous a toujours dans l'esprit. Quand je vais la chercher le matin ou après sa sieste, elle a toujours ses yeux émerveillés quand elle me voit. C'est plaisant, parce qu'avec l'âge, ça change un peu. Quand il me voit le matin, Tom, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a ce regard d'enfant émerveilleux devant ses parents, devant son père, sa mère, quand il est petit en tout cas. Gardons ce regard d'enfant émerveilleux devant notre Père Céleste, pour ne jamais l'oublier. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant qu'un jeune enfant du peuple d'Israël aurait jamais pu se lasser d'entendre ce que l'Éternel avait fait en Égypte, à la mer Rouge, dans le désert pour le peuple? Jamais. Est-ce que nous pouvons nous lasser de ce que Christ a fait sur la croix pour chacun d'entre nous? J'espère que la réponse est jamais. Jamais. Si je garde mes yeux d'enfant envers mon Père Céleste, enfant émerveillé, envers ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrai jamais l'oublier d'une quelconque façon. Et pour finir, au-delà de nos cas individuels, je crois que ce message, ou j'espère en tout cas, s'adresse aussi à nous en tant qu'Église pour notre rentrée. Cette Église n'est pas née aujourd'hui. Elle a une histoire derrière elle. Elle a un cheminement avec un lot de difficultés, d'épreuves aussi, entourée par Dieu. N'oublions pas le parcours accompli par notre Église. Avec les différents courants théologiques, réflexions qui circulent aujourd'hui, notre Église doit aussi avoir toujours cette volonté, ce désir de ne pas oublier de rester soumise à la parole de Dieu, pour être ferme sur l'essentiel et plus coulant peut-être sur le secondaire. Et notre Église aussi a eu de nombreuses bénédictions et réussites. Et n'oublions jamais de remercier le Seigneur pour ces bénédictions. Une nouvelle année démarre. Certains sont partis pour d'autres horizons et ils nous manqueront. D'autres sont arrivés ou vont prochainement arriver. Et nous accompagnerons pour continuer en Église ce cheminement sous le regard de Dieu. Un cheminement avec un Dieu qui est fidèle. Et où nous sommes appelés à rester fidèles à ses commandements. Où nous sommes appelés à profiter pleinement des succès que Dieu va nous offrir, mais en sachant à qui va notre reconnaissance. Amen.